Vous écoutez RTL.
Thomas, Sidonie, vous êtes là ?
Nous sommes là.
Et on est prêt encore
ça
à
va,
vous.
Marco ? Oui, très bien.
À vous aérer un petit peu, à quitter un peu la politique, à vivre des aventures incroyables.
Il faut une combinaison de plongée, mais bien épaisse.
Ah oui, très épaisse. Qu'on va découvrir les zones crépusculaires de tous les océans du monde. Oui, c'est possible grâce à notre. Non, mais notre invité, Guylain Bardou, c'est son métier. Il est explorateur polaire, plongeur. Et on va découvrir à plus de 100 mètres de profondeur la nature. Vous savez à quoi ça ressemble ? Il y a par exemple des animaux bleus.
On le dira dans l'ordre tout à l'heure.
On dit quoi ? Biofluorescent.
Biofluorescent, ouais, très bien. Et si vous voulez plonger dans l'univers de
la nature, mais...
c'est à 23h15 sur France 3 dans le divan. J'essaie ma transition, elle vous va ?
Sans combi. Merci.
Je vous retrouve demain à 18h sur RTL.
Bonne soirée.
RTL. Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans la curiosité. Comment ça va, Sidonie ?
Bah, ça va très bien. Écoutez, ça y est, je suis sortie de l'eau, je me suis séchée, on est parti. Vous allez bien ?
Oui, on va très très bien.
Soyez les bienvenus dans votre curiosité.
Alors, vous savez, grâce à cette émission, on apprend 1000 choses tous les soirs sur RTL. Tiens, par exemple, hier, on a découvert que l'aigle avait une si bonne vue qu'il pouvait repérer sa proie. Ouais, ça va être soirée savon. C'est contagieux. Donc,
oui,
vous avez commencé.
C'est vrai, on a remarqué
j'enchaîne.
Ça.
En tout cas, cet aigle, lui, il ne savonne pas, il repère sa proie à des kilomètres.
J'ai vu deux aigles posés sur un piton. Je les vois décoller, je les suis dans ma lunette. Et ils vont à une vitesse, ils s'accélèrent. Et tout d'un coup, ils piquent et paf, ils capturent une marmotte. La marmotte, j'ai regardé sur une carte après, était à 4 km. Une marmotte, je veux dire une marmotte, ça pèse 2-3 kilos, c'est pas colossal. Ils l'ont vu à 4 km. Bon, ça, je l'ai vu de mes yeux. Et je me dis, là, chapeau bas.
Allez, d'autres pépites en vue ce soir, Sidonie.
Au programme de la soirée, les grandes énigmes de nos villages français. La Maison Blanche américaine est-elle inspirée d'une bâtisse du Périgord ? Quel trésor antique patiente au fond du fleuve l'Hérault ? Où se trouve le trésor des rois de France ? Et oui, on le cherche toujours, les réponses, avec nos partenaires du magazine Ça m'intéresse.
Et puis, on va visiter le Paris de la Belle Époque, l'exposition universelle de 1900, un temps de progrès, de légèreté, d'innovations artistiques, une belle époque qui atteint son apogée en 1913, juste avant de basculer dans l'horreur de la Grande Guerre.
Et tout de suite, on part en expédition sous la mer.
La curiosité est un vilain défaut.
On va les rencontrer à la banquise de manière terrestre ou aérienne, mais surtout, nous, on va les voir en dessous et on va essayer de raconter l'histoire de la banquise.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il y a un champ d'exploration gigantesque qui est ouvert. Et c'est à nous de travailler pour le découvrir un petit peu plus.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Des conditions extrêmes pour un voyage sous l'eau à la rencontre d'un monde qui attend d'être découvert. C'est l'aventure que nous raconte notre invité, l'explorateur et plongeur polaire Guylain Bardou. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir,
bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Dans quelques jours, vous allez embarquer pour un grand voyage. Ça s'appelle Under the Pole 3. Vous allez nous raconter en quoi ça consiste. Évidemment, vous allez parcourir nos océans à la découverte des secrets, des profondeurs. Pourquoi aller très loin, en dessous ? Parce que personne ne l'a fait avant ?
Effectivement, c'est une des raisons. J'aime souvent dire que quand on est plongeur, quand on part en exploration dans les océans, dans les mers du monde, il y a toujours un moment, en général, quand on est au fond, où avant de remonter, on va avoir un dernier regard vers le fond. Et en général, c'est noir, c'est sombre. Et on se demande toujours, qu'est-ce qu'il y a au-delà ? Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs ? Et on a toujours envie d'aller voir où qu'on soit, quelle que soit la profondeur à laquelle on évolue. Et finalement, évidemment, on n'est pas des poissons, on finit toujours par remonter. Mais je crois que c'est une question qui restera toujours ouverte. On aura toujours envie d'aller voir un peu plus loin. Et voilà, nous, on s'est attaché à ça, en tout cas dans les régions polaires, depuis quelques années.
En mai prochain, vous allez partir pour une troisième expédition qui s'appelle donc Under the Pole. En quoi consiste cette nouvelle expédition ?
Alors Under the Pole 3, on part bientôt, le 20 mai prochain. C'est une expédition autour du monde qui va durer 3 années. Un tour du monde par les régions polaires. Alors on commence par l'Arctique, ensuite le Pacifique, viendra l'Amérique du Sud, puis l'Antarctique. Tout ça, donc, ça va être un programme très chargé. Sur chaque zone géographique, on va s'intéresser à des domaines d'études différents, mais qui auront tous pour point commun, la Twilight Zone, ce qu'on appelle aussi la zone crépusculaire. C'est une zone profonde, entre 30, 50 mètres et nous, on va s'intéresser à la zone jusqu'à 150 mètres de profondeur. Une zone qui est moins bien connue que la zone plus proche de la surface, parce que moins accessible. Et on va travailler main dans la main avec différentes équipes de scientifiques pour s'intéresser, par exemple, cet été à la bioluminescence, à la biofluorescence, les écosystèmes coralliens profonds quand on sera en Polynésie, des différentes espèces de requins, et puis d'autres choses, un habitat sous-marin, la place de l'homme dans le milieu sous-marin. Voilà, il y a beaucoup de choses à travers cette expédition.
On va détailler tout ça, parce que le luxe de cette émission sur RTL, c'est le temps, Guylain Bardou, la zone crépusculaire. Donc ça veut dire que plus on descend, moins il y a de lumière, plus il fait noir, c'est ça? C'est aussi simple que ça?
C'est ça, il y a une transition entre le jour absolu qu'on a en surface et puis le noir absolu qu'on a dans les abysses. Et cette zone crépusculaire, en français, qu'on appelle aussi scientifiquement la zone mésophotique, donc mésophotique, moyennement de lumière, quelque part, c'est cette zone intermédiaire, voilà, qui est moins bien connue.
Mais pourquoi? Parce que très très profond, on y est déjà allé avec des sous-marins ou des moyens, des scaphandres, enfin je ne sais pas quels sont les termes techniques. Et puis effectivement, entre 0 et 20-30 mètres, ça, il y a pas mal de plongeurs qui l'ont déjà exploré. Donc c'est cette zone-là intermédiaire que vous cherchez.
C'est une des explications. Effectivement, on peut plonger relativement facilement, on va dire, jusqu'à 20-30 mètres, un peu partout dans le monde. Et ça a été largement fait. Et même s'il reste une infinité de choses à découvrir, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Néanmoins, pour aller au-delà, ça commence à être plus compliqué. Il faut de l'expérience, il faut des moyens. Parfois, il y a des barrières juridiques également qu'on s'attache à faire évoluer aussi avec le temps. Et les sous-marins, effectivement, permettent d'aller explorer au-delà, mais les sous-marins, tout de suite, c'est des moyens très lourds. Il faut des gros bateaux, il faut des grosses équipes. C'est des opérations, en général, qui coûtent des fortunes. Et souvent, ces technologies, que ce soit des robots, d'ailleurs, ou des sous-marins, vont être utilisées pour aller au-delà, très rapidement, à 200, 300, 400, mais plusieurs milliers
de mètres. Donc vous êtes peu, mais vous voulez prendre le temps de voir l'eau, les animaux, de vraiment d'explorer cette zone crépusculaire, c'est ce que vous nous expliquez.
En détail, voilà. On va essayer de prendre le temps.
Et mais comment on fait, pardon, parce qu'il y a toujours un problème d'air, d'oxygène, de palier.
Vous allez vivre sous l'eau ?
Alors dans un deuxième temps, j'y compte bien. Alors pas forcément dans la durée, mais peut-être plus qu'on ne le peut aujourd'hui. Ça, c'est un des objectifs aussi de cette expédition. Mais juste un mot peut-être d'abord par rapport à la place de l'homme dans ce travail d'inventaire, dans ce travail d'observation, dans cette quête, dans cette recherche, c'est que les robots et les sous-marins ont toute leur place, mais ne remplaceront jamais l'homme. Hein, ça, j'en ai la conviction profonde, parce que l'homme est équipé d'outils très fins, ses doigts, ses yeux, ses sens, dont ne sont pas encore équipés les robots. Voilà. Et il y a certains travaux qui ne seront jamais faits par les robots, de la même manière que certains travaux ne seront jamais fait par l'homme.
C'est pour ça que vous et votre équipe, Guylain Bardou, vous allez ouvrir, déployer des tentes sous-marines. Vous allez nous raconter dans un instant en quoi ça consiste, vivre, en tout cas quelques temps, sous les mers, 20 000 lieues sous les mers. A tout de suite les curieux.
C'est une expédition hors norme que l'on vous fait découvrir dans la curiosité. 3 ans autour des océans, des plongées à plus de 100, 150 mètres de profondeur, avec à sa tête l'aventurier polaire Guylain Bardou. Alors si Denis disait juste avant l'interruption que vous alliez déployer, enfin installer des tentes sous-marines. Alors moi, en entendant ça, je pense au rêve de Cousteau de vivre sous l'eau, qui avait construit un habitat sous-marin. Ça ressemblera à quoi, vous, ces tentes sous-marines ?
Un petit peu à ce qu'a fait Cousteau à son époque, avec effectivement ses missions Précontinent 1, 2 et 3 dans les années 60, qui évidemment nous ont nourris, nous ont inspirés quand on était gamins. Et si on en est là aujourd'hui, je leur rends hommage ici, c'est évidemment parce que on a eu des gens comme le commandant Cousteau ou Jean-Louis Etienne, un nom contemporain avec qui Emmanuel et moi on a eu l'occasion de travailler et qui nous ont nourris et inspirés.
Emmanuel, c'est votre femme ?
C'est ma femme.
Qui vous accompagne.
Exactement.
Et qui bosse aussi sur ce projet, on racontera son rôle tout à l'heure.
Exactement.
Alors ces tentes, décrivez-nous ces tentes.
Là,
alors,
vous les déployez, vous arrivez.
Alors les tentes, elles pourront prendre différentes formes. Aujourd'hui, ce projet s'appelle projet capsule. Comme son nom l'indique, ce sera une capsule sous-marine, un habitat sous-marin. Ça peut être une tente, mais aujourd'hui, on est en train de s'orienter plutôt vers une solution rigide, un habitat sous-marin rudimentaire, simple, qui se veut être un moyen, en fait, de bousculer certaines limites qu'on a aujourd'hui.
Mais ça va ressembler à quoi ? Un cube, comme une pièce, un algéco ?
Ça va ressembler... ce sera plus petit que ça, parce que le volume doit être minime, de l'ordre de 6 mètres cubes, à peu près. C'est un habitat qui sera simple. Concrètement, il sera fait de verre, fait d'aluminium, d'acier, de matériaux composites. On va essayer de le faire très simple.
Pour y passer combien de temps ? Pour y faire quoi ?
Plusieurs heures, plusieurs jours. Mm-hmm. À terme, c'est l'objectif. Alors, c'est des objectifs très, très ambitieux. Quand on s'est lancé là-dedans, il y a un an, on nous a regardé avec des yeux un peu olé-olé. Et aujourd'hui, on a beaucoup avancé. On a rencontré plein de monde en France, des chercheurs, des physiologistes, des médecins, etc. On a beaucoup parlé technique aussi, parce qu'il y a deux défis dans ce projet. Il y a le défi technique et il y a le défi physiologique. L'homme sous la mer, toutes les questions de saturation, de désaturation.
Vous avez testé ça, Guylain Bardou ? Vous avez essayé de vous mettre dans ce type de capsule sous la mer pour voir combien de temps vous allez tenir ? Est-ce que vous ressentiez de l'oppression, j'imagine ?
Non, pas encore, mais par contre, ça va venir très très vite, puisqu'on a notre première campagne d'essai qui est planifiée pour le mois de février prochain, certainement à Marseille, chez la Comex, et on est en fin de phase de développement, la construction commence cet automne.
Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à ces profondeurs ? Vous avez parlé de bioluminescence, c'est quoi ces animaux ? Qu'est-ce qu'on peut voir ?
Alors la bioluminescence et la biofluorescence, c'est deux phénomènes différents. La bioluminescence, c'est la capacité d'un être vivant à émettre de la lumière, c'est une réaction chimique. Et la biofluorescence, au contraire, c'est la capacité d'un organisme vivant à absorber, à emmagasiner une partie du spectre lumineux et à le réémettre sous forme de lumière fluo dans les bleus, dans les jaunes, les orangés en général.
Et ils font ça pourquoi ces animaux ? Pour s'éclairer ? Parce que dans la zone crépusculaire, on n'y voit rien.
Exactement. Ouais. Alors pas s'éclairer, mais pour des questions de camouflage, pour des questions de communication et évidemment de reproduction et de prédation.
C'est quel genre d'animal ?
Il allume son phare pour que la femelle ou le mâle arrive, c'est ça ?
Par exemple, ça peut être pour se signaler, ça peut être pour appâter en mettant une petite partie de son corps lumineux devant sa mâchoire, par exemple. Ça peut être aussi pour communiquer entre espèces, parce que certains de ces animaux ont des filtres sur leurs yeux qui font qu'elles peuvent se voir entre eux mais pas les autres espèces.
Mais c'est quel
prédateurs.
Genre d'animaux pour qu'on y... C'est quoi, une méduse
Il y a quasiment toutes les espèces. Et en fait, la biofluorescence, on la connaît depuis longtemps, c'est pas un phénomène nouveau, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que les chercheurs s'y intéressent de plus en plus, et les dernières années, on a découvert un grand nombre d'espèces, beaucoup plus que ce qu'on ne pouvait imaginer. Donc en fait, c'est vraiment un champ d'expérimentation qui est en train d'exploser, et on trouve des applications en particulier dans le domaine médical, parce que c'est des protéines, c'est des molécules qui réagissent et qui ont des applications très très grandes dans le domaine pharmaceutique.
Mais alors cette expédition s'appelle Under the Pole 3, donc ça veut dire que vous allez plonger dans les eaux des pôles, si je comprends bien, hein. Je suis pas très bon en anglais, mais quand même, jusque là ça va.
C'est la logique,
comment on fait pour tenir longtemps sous l'eau qui est à, je sais pas, 0 degré, 1 degré, 2 degrés, c'est quoi la température et les conditions que vous rencontrez ?
Alors la température va de, en gros, moins 2 degrés en hiver à plus 2, plus 4 en été.
Donc ça, c'est sous l'eau, hein.
Sous
on est
l'eau,
bien d'accord. Et
en
on
surface,
peut tenir long. Oui, et en surface, pardon.
En surface, en région polaire, grosso modo. Hein, on va dire qu'au cœur de l'été, quand il fait chaud, on peut être à plus 15. Et ça peut descendre, selon les zones, à moins 40, moins 50, moins 60.
Et combien de temps on tient sous l'eau à 2 degrés, puisque vous nous dites, on va rester le plus longtemps possible sous l'eau pour observer, justement.
En zone polaire, on fait des plongées courantes de l'ordre de 2 heures, 3 heures, avec du bon matériel, une bonne combinaison isolante et même des systèmes chauffants actifs, c'est-à-dire qu'on a des combinaisons qui permettent de chauffer le corps. Ça vient d'ailleurs de la course automobile ou de la course à moto, où dans la course, avant les pit stops, ils changent les pneus et pour avoir les pneus à la bonne température au démarrage, il est préchaud, voilà. Et ces technologies chauffantes, elles ont été adaptées aux vêtements des plongeurs.
Guylain Bardoux, vous allez partir en famille, et pas seulement en famille, vous allez voyager sur quel bateau ? Le bateau habituel ? Le Wai ?
Le Wai, c'est notre bateau chéri. On l'adore, le Wai, c'est un voilier, c'est une goélette polaire, donc avec deux mâts, qui fait 20 mètres de long. C'est un bateau qui pèse à peu près 50 tonnes en charge, qui accueille 12 personnes. C'est 12 équipiers passionnés qu'on a à bord. Alors il y a un peu de tous les corps de métier. On a un médecin, on a un cuisinier, on a des scientifiques, photographes, caméramans. Voilà, c'est toute une équipe qui travaille déjà avec nous et qui va se relayer au cours de l'expédition.
Et vos enfants et votre chien ?
Exactement, Kayak, qui est fidèle aux Expeditionneurs de Pôle depuis le début. Kayak était venu nous rejoindre avant de partir sur la première Expeditionneurs de Pôle, et c'était le responsable de la sécurité de l'équipe, puisque en tant que Siberian Husky, c'est les chiens adaptés aux régions polaires.
J'allais vous dire, avec ce nom-là, c'est pas un chihuahua.
Non. Et ils sont là pour les ours polaires, avant toute chose. Ouais.
Et justement, vous allez nous raconter comment ça se passe aussi, une expédition en famille. C'est à suivre sur RTL, dans la curiosité.
Ça fait 15 jours qu'on est parti et on est en stand-by météo en attendant de monter plus au nord, direction les îles Féroé.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le départ, ça a été un moment avec quand même beaucoup d'émotions.
La curiosité est un vilain défaut.
On a eu les premières neiges de l'expédition sur les sommets au loin.
Curieuse, curieux.
Et puis voilà, c'est des paysages grandioses.
Vous êtes chez vous sur RTL.
On continue de partager sur RTL le quotidien d'un explorateur polaire et de découvrir ses aventures passées et à venir. Guylain Bardoux, vous apprêtez en mai prochain, le 20 mai précisément, à réaliser la 3e expédition Under the Pole, sous le pôle d'ailleurs. Vous allez parcourir 4 océans jusqu'en 2020 sur votre goélette que vous adorez, votre goélette chérie qui s'appelle le Wai, et vous partez en famille. Alors ça, c'est quand même pas commun. 3 ans en famille avec votre femme ou votre compagne et vos 2 enfants, ainsi que votre chien. Comment on voyage en famille, car ce n'est pas la première fois?
Non, effectivement, avec Emmanuel, ma femme, on a fait ce choix de vie. On s'est lancé il y a une dizaine d'années maintenant, et on a décidé ensemble d'essayer de construire ces expéditions. Et c'est vrai que depuis, on a fait un petit bout de chemin. Alors aujourd'hui, la famille s'est agrandie. On a Robin qui a fait la précédente expédition dans le pôle au Groenland, 2 ans avec nous au Groenland. Robin a 5 ans maintenant. Il est en moyenne section de maternelle. Et Tom, actuellement, a bientôt 1 an, là, voilà.
Et donc, il est tout petit.
Ouais, tout petit, il ne marche pas encore.
Donc pas de crèche pour eux, pas de maternelle ou de primaire.
On est en France, oui.
Mais l'école sur le bateau, avec des missions pour eux aussi, des missions scientifiques.
Tom, on va peut-être pas lui mettre la pression tout de suite.
Ils vont peut-être être regardés. Non, je pense que par contre, ce seront des très bons médiateurs et des très bons passeurs, en tout cas pour leur génération, puisqu'on va mettre en place aussi des collaborations, des partenariats avec certaines écoles. Alors, on travaille déjà avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'Académie de Rennes en particulier, avec les écoles de la région. Et on va mettre en place des échanges avec les classes respectives et la crèche, je veux dire, et puis la classe de Robin.
Mais est-ce que vous êtes marin au départ de régions maritimes en France, ou alors des urbains qui se sont passionnés pour la plongée? C'est quoi le point de départ, ou l'histoire familiale peut-être, je ne sais pas, qui amène à ce projet?
Alors Emmanuel et moi, on n'a ni l'un ni l'autre d'origine maritime, on va dire.
Ouais.
Emmanuel a vécu, en gros, jusqu'à ses 18 ans, du côté de Troyes en Champagne, vous voyez, donc c'est pas franchement la mer, mais juste après le bac, elle est partie. Et surtout, à 13 ans, en fait, elle avait une passion prodigieuse pour la mer, pour les dauphins, pour les cétacés. Et à 13 ans, elle est partie voyager pendant 6 mois sur un bateau école. Et ça l'a marqué, ça l'a forgé. Et certainement, ça l'a mis sur une voie. Et d'ailleurs, juste après le bac, elle est partie se former à l'école nationale de voile et au Glénan. Et elle en a fait son métier.
Et vous ?
Et moi, alors moi, j'ai...
Vous êtes un urbain ou...
D'origine, mais j'ai plutôt vécu à la campagne, hein, globalement. En particulier, je suis arrivé à 10 ans du côté du bassin lémanique, vous voyez, donc plutôt les Alpes, où j'ai passé le gros de ma vie, hein, derrière, jusqu'à mes études. Et donc, j'ai toujours été tourné essentiellement vers la montagne et puis ensuite la mer quand j'ai découvert la plongée à l'âge de 15 ans. Et là, ça est devenu une passion dévorante qui a guidé ma vie et qui m'a, je pense, aussi fourni toute l'énergie pour mener les projets que je mène aujourd'hui.
Et puis, vous avez commencé avec Emmanuel, donc votre femme, il y a plus de 6 ans, ces expéditions. Under the Pole, la première expédition où vous vouliez révéler en quelque sorte la face cachée de la banquise. Qu'est-ce que vous y avez découvert ?
Alors la banquise,
c'était donc en Arctique.
La banquise de l'océan glacial arctique, ouais. Celle du pôle Nord, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie.
Ça ressemble à quoi ?
À une autre planète, à une planète faite de toute la palette des bleus. C'est un monde de glace, mais c'est pas un monde de glace. Il faut surtout pas imaginer ça comme un terrain de foot plat. Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est un monde qui est extrêmement chaotique, tout en relief, avec des dimensions très très importantes, des cathédrales de glace, des cristaux dans tous les sens, de toutes les formes.
Du bruit aussi.
Des épées, des bruits, des plaques de banquise qui s'entrechoquent, qui font des bruits sourds. C'est des millions de tonnes de glace qui s'entrechoquent sous l'effet du vent. On est en présence de forces auxquelles on n'a pas l'habitude. C'est presque des forces sismiques quelque part. Voilà. Et on vit dessus, on est imprégné, on vit au cœur d'un milieu qui est difficile, qui est hostile, où il n'y a personne d'autre aux alentours. Et quelque part, ça aiguise les sens.
Mais ça, c'est quand on est au-dessus, quand on plonge dessous, vous l'avez fait à l'époque. Est-ce que le paysage change radicalement ? Il y a de la couleur, il y a des plantes ou des animaux dont on ne soupçonnerait pas l'existence.
Alors, ces deux univers, quand on franchit le trou qu'on perce dans la banquise, ouais. Quand on franchit la surface de la glace, on passe d'un univers qui peut être blanc, gris ou bleu éventuellement s'il fait beau en regardant vers le haut, à un univers qui est totalement bleu, toute la palette des bleus, et noir. Mais un noir profond, un noir luisant qui est magnifique quand on regarde vers le bas. Et évidemment, là, c'est les abysses, hein, puisque sous le pôle Nord, il y a plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Il y a quoi dans les abysses ? Vous le savez ? On le sait ?
Un jour, on ira voir. Un jour, on ira voir. Oui, on le sait, mais partiellement.
Des animaux énormes ?
Des animaux énormes, des animaux avec des gueules un petit peu loufoques qu'on a moins l'habitude de voir, mais qu'on pêche. Voilà, on connaît une partie des abysses à travers la pêche, à travers les campagnes océanographiques de prélèvement. Mais à chaque campagne, on découvre de nouvelles espèces, ce qui nous laisse penser que une grande partie de la biodiversité sous-marine des océans, que ce soit proche de la surface ou plus en profondeur, reste à découvrir.
Mmh. Guylain Bardou, vous avez aussi réalisé un record lors d'une expédition au Groenland. Un record de plongée, racontez-nous.
Alors, c'était sur la précédente expédition, dans The Pole 2 au Groenland, en 2014 et 2015. On avait pour objectif sur cette expédition d'étudier, d'inventorier la biodiversité entre, en gros, le sud du Groenland, le cercle polaire, et puis le plus au nord possible, un peu pour faire un lien avec cette première expédition où... Là, on n'était pas proche de la côte, mais au cœur d'un océan. Et petit à petit, jour après jour, mois après mois, on est descendu vers les profondeurs. Et effectivement, on a réalisé deux premières. La première plongée, les premières plongées, puisque c'était une campagne qu'on menait, de plongée à plus de 100 mètres. On a plongé ainsi jusqu'à 80 degrés de latitude nord. Et puis, on a répété ça pendant l'hiver sous la banquise, en faisant la première plongée à plus de 100 mètres sous la banquise.
Des Groenlandais qui découvrent la banquise du dessous pour la première fois. C'est à découvrir dans un instant sur RTL.
Combinaison bien épaisse, bouteille d'oxygène, palme, vous avez tout ? Bon, bah alors on y va, on plonge à plus de 100 mètres de profondeur avec notre invité, l'explorateur polaire, Guylain Bardou. On discutait là tout en écoutant Texas et on parlait du doc que vous avez fait à propos de l'une de vos premières expéditions. Et il y a des images où on vous voit remonter là, après avoir passé plusieurs heures sous l'eau du pôle, une eau à quoi de 0, moins 2 degrés. Vous êtes bien rouge, hein, bien bouffi, qu'est-ce qui se passe ?
C'est
le bol d'air, quoi.
C'est la vie qui reprend ses droits sur notre corps, hein, quelque part. Ouais. C'est l'afflux sanguin, en fait, hein, le sang qui revient, qui recircule, parce que à l'immersion, en général, on a des picotements. Hein, c'est assez douloureux au niveau des lèvres. Et puis assez rapidement, en fait, le sang arrête de circuler ou en tout cas diminue et on ne ressent plus cette douleur. Et au contraire, quand on revient, le sang revient. Voilà, c'est pour ça qu'on a ces têtes un peu bouffies. Il ne faut pas trop se regarder dans un miroir quand on sort de plongée.
Mais comment vous tenez? Parce que le froid doit finir quand même par s'insinuer. Donc, vous disiez, il faut l'homme, il faut la précision du geste de l'homme, de la main de l'homme. Mais est-ce qu'à un moment, vos doigts deviennent gourds? Est-ce que vous avez du mal à bouger sous l'eau?
Oui, très clairement. Hein, la plongée polaire, ça reste difficile. Hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est pas quelque chose de très courant. C'est pas les premières régions qui ont été explorées. C'est même les dernières, hein, en surface d'abord. Mais même aujourd'hui, hein, les océans polaires restent les moins bien connus. La NOAA, cette agence américaine qui étudie l'atmosphère, qui étudie les océans, l'a recensée comme un des derniers sanctuaires où il y a énormément de biodiversité à aller découvrir. Et d'en faire une priorité pour les programmes de recherche des années à venir.
Donc c'est compliqué, c'est difficile.
C'est difficile, ça fait mal et il n'y a pas une seule plongée où on n'a pas mal aux mains, où on n'a pas l'onglet en sortant de l'eau.
C'est quoi les risques?
C'est le prix de l'exploration.
Les risques de l'exploration polaire, de la plongée sous-marine. Par exemple, quand vous plongez, alors c'est à l'intérieur d'un iceberg, c'est ça?
Ça nous est arrivé, effectivement. Les icebergs sont creusés petit à petit, ils travaillent, ils sont léchés par l'océan, par les courants, et petit à petit, il va y avoir des cavités, des tunnels, des parois qui vont être creusées.
Ça attise votre curiosité, forcément.
Évidemment, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va jouer à cache-cache dans le premier iceberg qu'on voit. On choisit toujours les icebergs sur lesquels on plonge, en particulier à la saison où sont les plus instables, le printemps, l'été, et au contraire, pendant l'hiver, quand la visibilité est la meilleure, on a pu faire des voyages intérieurs absolument extraordinaires.
Ça sert à quoi de plonger dans un iceberg en dehors du plaisir, du regard? Est-ce qu'il y a une portée scientifique? Qu'est-ce qu'on apprend en plongeant dans ces icebergs?
Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a clairement le voyage où on pénètre un environnement de glace que l'œil humain n'a absolument pas l'habitude de voir. Et c'est intéressant de le montrer, c'est intéressant d'en rendre compte. C'est intéressant d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un iceberg aussi. Qu'est-ce que c'est que ces mondes de glace? On parle beaucoup de réchauffement climatique. Il y a souvent une confusion entre les glaces, les glaciers, les calottes polaires, les icebergs, la banquise, le permafrost. Tout ça, c'est des termes... des fois qui sont un peu confondus, et expliquer ce qu'est un iceberg, aller le montrer aussi, l'envers du décor, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, oui, il y a aussi toute une dimension scientifique.
Alors, pour bien comprendre, on va commencer par poser une question. Si un iceberg se creuse et se brise à cause du réchauffement climatique, c'est notre faute?
Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre. J'aurais envie de dire oui et non. Non, parce que les icebergs, c'est des morceaux de glacier qui sont rejetés à la mer, qui vont circuler en mer et qui vont finir par fondre. D'ailleurs, il y en a un qui a défrayé la chronique les derniers temps, puisqu'il s'est échoué du côté de Terre-Neuve, oui, en face d'un village. Et voilà, donc ça fait
le point de vue avait changé. Voilà. Ils ont pu faire des photos différentes.
Mais c'est quelque chose de très classique. C'est juste un iceberg qui vient du Groenland, ouais, probablement d'Ilulissat, au milieu du Groenland, et il s'est échoué.
Guylain Bardou, au cours de ces expéditions, vous avez évidemment été en contact avec les habitants de cette région, notamment au Groenland. Et alors, Sidonie disait tout à l'heure, vous les avez initiés, en tout cas pour certains d'entre eux, à la plongée. Certains n'étaient jamais allés voir en dessous. Comment ça s'est passé?
Alors, les Groenlandais, c'est un peuple extrêmement gentil, très curieux, qui... nous ont ouvert leurs portes quand on a décidé d'hiverner dans cette baie d'Oumanak, au milieu du Groenland, sur sa côte ouest. Et évidemment, nous, on avait envie d'échanger avec eux, envie de leur partager, mais pas n'importe quoi. Et nous, ce qu'on avait le mieux à leur faire partager, c'était de les amener à regarder sous la banquise leur terrain de vie, leur terrain de chasse, leur terrain de progression millénaire. et dont ils ont peur en même temps. C'est vraiment leur terrain de chasse et leur terrain de pêche, mais c'est un terrain qu'ils redoutent. Ils ne savent pas nager. L'eau là-bas est froide, il n'y a pas de piscine au Groenland.
Il est plein de mystères et de légendes, j'imagine.
Et énormément de mystères et de légendes.
Ils
ne
savent pas nager.
Non, parce que
très peu d'entre eux.
C'est pas un pays où il y a des piscines.
Ah oui.
Et l'eau est froide, donc oui, c'est
donc,
pas dans leur culture.
Donc c'est pas le premier truc qu'on apprend, d'accord.
En général, quand on tombe à l'eau, c'est synonyme de mort. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des morts chaque année dans tous les villages.
Et alors, vous les avez initiés, c'est ça? Vous en avez initié certains?
Alors au début, ils nous ont regardés bizarrement, ouais. Mais très curieux, ils se sont toujours approchés. Et à plusieurs reprises, on a organisé des baptêmes de plongée quelque part. Alors, c'était extraordinaire. Il y avait tout le village autour de nous. Ensemble, on creusait un trou. Et on les emmenait plonger.
Ils ont trouvé ça beau.
On leur faisait ici nos combinaisons. Il y en avait la moitié qui prenait simplement plaisir à se jeter à l'eau, comme à la piscine, justement, comme des gamins en combinaison, parce qu'ils ne pouvaient jamais le faire. Ouais. Et puis d'autres qui ont carrément respiré dans nos détendeurs avec un masque et qui ont regardé sous la banquise à quoi ressemblait le paysage qu'ils connaissaient si bien en surface.
Merci beaucoup, Guylain Bardon. On vous souhaite bon vent pour cette nouvelle expédition Under the Pole 3. Vous partez en mai prochain. Est-ce qu'on peut suivre votre expédition sur Internet, par exemple?
Sur notre site internet, ouais. www.underthepole.com. On part dans quelques jours, le 20 mai prochain, et voilà, c'est le début d'un grand partage également.
On vous lâchera pas. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.